Bonsoir.
Bonsoir.
Il est
19h03.
Et c'est l'heure du
Canu Info.
On m'aurait dit que ça aurait été préparé.
C'est rare, hein.
Ouais.
Mais est-ce que mon m'entend?
Oui.
Oui. Ah, parce que j'ai
un truc sur mon micro. Pas très fort.
Ah, c'est pour ça. Mais allez-y, bah faites les titres, je vais voir ce qui est le problème.
Eh ben, après des brèves, on va parler, ma foi, de Idriss Déby, qui est clamsée, et la France est bien embêtée.
Oui, on est triste pour elle. Hein. Alors, on ouais. parlera après de la vaccination contre le Covid à l'échelle mondiale. Et ce sera un sujet à deux voix.
Et puis, ça sera tout, on aura déjà terminé.
Voilà, il y aura aussi au milieu une petite pause musicale.
Oui. Voilà. Une longue pause musicale.
Oui, une longue pause musicale.
Vu qu'on va pas dire grand-chose.
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Et je commence donc par une brève, que c'est un titre que j'ai trouvé dans la presse. Bachar el-Assad est candidat à sa propre réélection le 26 mai. Le sous-titre, l'issue du scrutin semble déjà écrite pour les médias d'État en Syrie. Autant dire que j'ai même pas ouvert l'article pour savoir ce que les médias d'État prévoyaient sur la réélection de Bachar el-Assad, parce que je m'en doutais un petit peu. Ça y est, c'est terminé.
Ah, petite brève. Et donc, après on va parler de condamnation d'un policier.
Voilà, donc on enchaîne. Ah,
ça ne doit pas être en France, j'imagine.
Non, bah, vous y avez certainement pas. Vous n'êtes certainement pas passé à côté de cette information, puisque c'est pas en France, effectivement. Et hier, Derek Chauvin, qui est le policier américain qui a étouffé George Floyd à Minneapolis en mai dernier, a été reconnu coupable de meurtre, d'homicide involontaire et de violence volontaire ayant entraîné la mort. Donc trois chefs d'inculpation, auxquels, donc les trois auxquels il a été reconnu coupable. Il y a eu une foule qui réunissait plusieurs milliers de personnes à l'extérieur de la salle d'audience qui a éclaté de joie à l'annonce du verdict. Est-ce qu'il est utile de le préciser? Aux États-Unis, la condamnation de policiers pour meurtre sont très rares. Le système pénal et les jurys accordent traditionnellement une certaine protection aux policiers recourant à la force pour soumettre des civils. Alors oui, c'est un verdict historique, mais il aura fallu des mois de soulèvements populaires aux États-Unis et partout dans le monde. George Floyd est devenu un symbole des violences policières racistes. Sans cette pression de la rue, on peut se demander aussi si le verdict aurait été le même. Autre élément non négligeable, cette condamnation s'appuie sur une pièce à conviction particulièrement solide, une vidéo de 9 minutes filmée par la cousine de George Floyd. Une preuve de plus, s'il en fallait encore, que filmer les policiers en pleine dérive, si ça ne les empêche pas de continuer, ça permet au moins dans certains cas de rendre la justice aux victimes. Pour l'heure, pas de réaction des politiciens français à ce verdict, étonnant, mais comment ne pas songer à la loi sécurité globale fraîchement adoptée par le Sénat et l'Assemblée, donc adoptée tout court, dont l'un des buts est justement d'empêcher toute identification possible de policiers sur une vidéo. Alors si cette condamnation a été perçue comme une victoire, il n'y a aucune illusion à avoir en l'idée que la justice pourrait subitement cesser de défendre les forces de l'ordre ou mettre fin aux violences policières racistes, puisque alors même que pendant le procès déroulé, les meurtres commis par la police se sont multipliés, comme le rapportait le New York Times il y a quelques jours, depuis le 29 mars, au moins 64 personnes sont mortes aux mains des forces de l'ordre dans tout le pays, les Noirs et les Latinos représentant plus de la moitié des morts. Samedi, la moyenne était de plus de 3 meurtres par jour. D'ailleurs, alors que les jurés de Minneapolis condamnaient Derek Chauvin, une jeune fille noire de 16 ans était tuée à Columbus dans l'Ohio, donc au même moment, l'impunité restera domine certainement dans ces dizaines d'affaires moins médiatisées que celle de George Floyd.
Canu Info. Du mercredi.
Et on va faire un tour du côté du Tchad.
Alors, être tchadien ou être tchadienne, c'est quand même pas, c'est pas un cadeau, quoi. Quand Idriss Déby est arrivé au pouvoir en 1990, on a pu croire brièvement que ça allait mieux se passer au Tchad. Il faut dire que le président précédent, Hissène Habré, c'était quand même une sacrée ordure. C'était un bonhomme qui massacrait, qui torturait à tour de bras toute personne vaguement soupçonnée de n'importe quel petit début de quelque chose qui aurait ressemblé à de la contestation. Il lui arrivait à Hissène Habré de s'occuper personnellement de violer des prisonnières opposantes politiques. Ça, c'est les choses qui font que nous, on le considère comme un salaud. Mais pour le gouvernement français, ça, bon, comment dire, ça les embêtait pas beaucoup. Hein. Bien d'autres amis de la France, bons amis de la France, faisaient à peu près pareil et font toujours un peu des crapuleries autoritaires à droite et à gauche. Ça, ça n'a jamais empêché d'être amis de la France. Par contre, figurez-vous que Hissène Habré a fricoté diplomatiquement avec l'ennemi, le vrai, le véritable ennemi, l'ennemi de la France en Afrique, j'ai nommé les Anglo-Saxons. Alors, les services français, ça, ils n'ont pas aimé du tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont un peu cherché, puis ils ont trouvé un des sous-fifres de Hissène Habré, le chef des armées tchadiennes, le conseiller du président pour la sécurité et la défense, un militaire qui avait été formé en France, un militaire avec les dents longues, et qui voulait être calife à la place du calife, c'est l'histoire des dents longues. Et le 1er décembre 1990, avec l'aide des services de renseignement français, je dévoile pas une information complètement secrète, c'est juste par exemple écrit sur Wikipédia, Idriss Déby vire Hissène Habré et prend le pouvoir à N'Djamena. Lors d'un premier discours, Idriss Déby promet la démocratie et la liberté, les élections libres et blabla, et j'en passe, et des meilleurs. Les 30 ans qui suivent sont tout exactement l'inverse. C'est donc un dictateur ultra-autoritaire qui va régner sur le Tchad avec le soutien sans faille de la France pendant toute cette durée de 30 ans. Les opposants et opposantes sont globalement emprisonnés, enlevés, tués, disparaissent. Il arrive toutes sortes de choses. Les manifestations sont globalement interdites, réprimées parfois dans le sang. Idriss Déby tolère parfois quelques concurrents à des élections parce que quand même, il s'est toujours attaché à se faire élire et réélire. Parce que c'est quelque part, il avait un petit fond démocrate. Et il a quand même toujours toléré ses concurrents, à condition que ses concurrents n'aient absolument positivement aucune chance. Idriss Déby a été élu 6 fois pendant sa carrière, jusqu'à la dernière fois qui était donc le week-end dernier. Il a toujours été élu au premier tour, avec des scores toujours supérieurs à 60%, et il est allé jusqu'à des quasiment 90%, 88,9 et quelques. Pendant toutes ces années, la France l'a toujours soutenu de manière indéfectible. Mais alors pourquoi est-ce que la France a tellement adoré Idriss Déby ? Eh bien, c'est que son armée est la seule armée réellement puissante, réellement entraînée de l'Afrique centrale. Et dans le groupe de pays qu'on appelle le G5 Sahel, c'est la seule armée c'est la seule armée à peu près efficace.
Est-ce qu'elle achète des rafales ?
Alors, j'ai pas cette info. En fait, je pense que globalement, les armées qu'achètent le Tchad, les armes qu'achètent le Tchad, c'est toujours avec le pognon des Français. Du coup, même si la France vend des rafales, ça reste quand même avec le pognon du gouvernement français. J'en sais rien. Mais le fait d'avoir comme ça une armée qui est pour le coup, pas une armée de ploucs comme d'autres pays d'Afrique, qui sont armés de 3 bâtons et de quelques vieux tromblons, entraînés par toutes les caricatures qu'on a, mais qui réellement font qu'un certain nombre d'armées africaines sont quand même pas non plus au top de l'agressivité ou de l'efficacité. Le Tchad, c'est vraiment pas ça. Et tout ça, ça permet à l'armée française, à la France, au pays de la France, pardon, ça permet à la France d'envoyer des Tchadiens bousiller du djihadiste dans le Sahel sans trop se mouiller. Et puis, un avantage, c'est que si l'armée française, elle y va elle-même, et si à ce moment-là, accidentellement, il y a un crime de guerre qui se passe, une petite saloperie, une grosse saloperie, alors, dans la mesure où c'est dans le Sahel, on a toujours une chance que ça passe à travers, mais dans les années 2020, en vrai, passer à travers, ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Il y a toujours quelqu'un avec un téléphone qui finit par poster un machin sur YouTube. Et si c'est pas le cas, il y a des gens qui témoignent, il y a des journalistes, il y a nanana. Et donc, par exemple, il y a eu cette histoire, c'était en janvier dernier, au Mali, dans un bled qui s'appelle Bounti, où la vaillante aviation française a visiblement cru bombarder des djihadistes, mais en tout cas, les gens qui sont morts, c'était juste des invités à un mariage. Alors voilà, ça, dans la mesure du possible, on préfère éviter. Alors que bon, il y a des djihadistes, on envoie des militaires tchadiens, ils combattent dans le même camp que les Français, mais et finalement, sous les ordres à peine moins directs de l'état-major français. Mais en tout cas, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait des bavures, bien sûr, puisque un pays dictatorial, un président ultra-autoritaire, globalement un Africain. Tout le monde s'attend à ce qu'il fasse, à ce qu'il s'autorise un peu du crime de guerre. Et aucun journal au monde risque de s'en émouvoir beaucoup. Gros avantage pour la France. Et c'est donc surtout pour cette raison que quand parfois, au Tchad, depuis que Idriss Déby y est, il y a quand même eu non seulement des tentatives d'opposition démocratique, non violente, tout ça, mais il y a aussi eu des mouvements armés qui ont essayé de virer Idriss Déby, parce que c'était vraiment quand même assez insupportable pour le pays. Et ces mouvements armés ont parfois quand même se sont un peu approchés de la victoire. Et entre autres, en 2008, par exemple, ils ont vraiment encerclé le palais présidentiel. Mais Idriss Déby avait déjà été mis en danger militairement et personnellement en 2005, en 2006 et donc aussi en 2008. À chaque fois, l'armée française est toujours arrivée à temps pour sauver les fesses du dictateur. Pas en 2021. Puisque en effet lundi dernier, ou peut-être plutôt dimanche d'ailleurs, Idriss Déby a pris une balle. Alors sur le champ de bataille d'après le communiqué officiel, d'après d'autres sources anonymes citées par Mediapart, mais enfin bon, qui semble quand même être allé un peu parler à des gens, il n'est pas impossible qu'il ait été blessé non pas sur le champ de bataille, mais plutôt en pleine réunion d'état-major par quelqu'un qui était à la réunion. Le haut commandement tchadien avait plus l'air d'être très très uni autour de son chef. Bon, toujours est-il que, quel que soit l'endroit où il a pris sa balle, voilà, il est mort, il est clamsé. On est débarrassé de lui. Mais dans ce cas, la constitution tchadienne, comme n'importe quelle constitution, prévoit ce qu'on appelle la vacance du pouvoir. C'est-à-dire le moment où, brusquement, la personne qui incarne le pouvoir n'est plus là, on ne peut plus compter sur elle. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, c'est fixé par la constitution, comme c'est fixé par toutes les constitutions du monde. Et dans ce cas, au Tchad, ce qui est prévu, c'est que c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim. Dans tous les cas, précise l'article 81 de la loi fondamentale, il est procédé à de nouvelles élections présidentielles, 45 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance. C'est-à-dire que dans les 3 mois qui suivent, entre un mois et demi et 3 mois après éventuellement la mort du président, ça aurait été pareil s'il avait été prisonnier ou s'il avait fait un AVC. Enfin bon, l'exemple algérien montre qu'on peut gouverner très longtemps avec un AVC. Mais voilà, c'est entre un mois et demi et 3 mois plus tard, il doit y avoir de nouvelles élections et c'est donc le président de l'Assemblée nationale qui s'en occupe. Bah, finalement, bizarrement, c'est pas ce qui s'est passé. Le fils du président, le général Mahamat Idriss Déby, 37 ans, jusqu'alors chef de la redoutable garde présidentielle, a plutôt dissous le gouvernement, dissous l'Assemblée nationale dans la foulée et pris la tête d'un comité militaire de transition, donc le CMT. Le CMT qui a juré, bien sûr, que de nouvelles institutions verraient le jour après des élections libres et démocratiques. Alors là, par contre, pour le coup, il ne parle pas de 1 mois et demi à 3 mois, il parle de 1 an et demi. On ne comprend pas vraiment pourquoi un pays qui donc a une constitution a besoin d'un an et demi pour réorganiser des élections.
Peut-être pour réécrire la dite constitution.
Alors peut-être, va savoir. En tout cas, ce comité militaire de transition, donc militaire, c'est le mot est juste, hein, c'est donc composé de ce Mahamat Idriss Déby et de 14 généraux, qui sont vraiment les généraux les plus ultra fidèles au daron, quoi. Et donc c'est ces généraux qui vont gouverner pendant ces 1 an et demi. Alors bon, le gouvernement français, qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, le gouvernement français n'est pas un coup d'État près, c'est pas ça qui est important. Et donc le gouvernement français a globalement validé. Alors le président de la République, alors bien sûr tout le monde, le président de la République en particulier, a rendu hommage à Idriss Déby. Il se rendra à ses obsèques en fin de semaine. C'est ce que nous a dit Gabriel Attal dans une conférence de presse. Il a salué un homme, là on parle de Idriss Déby, hein, le père, un homme de courage, un homme passionné de son pays. Il n'a pas vraiment salué un dictateur qui enfermait et qui tuait les opposants. La ministre française des Armées, Florence Parly, a de son côté affirmé que la France perd un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Et mais du coup, à propos de cette manière dont la transition du pouvoir se passe, c'est Jean-Yves Le Drian, qui est chef de la diplomatie française, qui a dit « Bon, bah écoutez, c'est pas mal, il a juste appelé à une transition militaire d'une durée limitée qui conduise à un gouvernement civil et inclusif. » ça mange pas de pain de dire il faudrait plutôt aller dans cette direction. Mais disons que entre Paris et le Tchad, c'est clair que si quelqu'un à Paris avait dit non mais là en fait il y a une constitution, il faut la respecter, ça se serait arrêté là. Et surtout personne à Paris n'a dit ça. Alors voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer maintenant pour le Tchad. Ce qu'on sait, c'est en gros que ce qui se passera, c'est ce que la France aura décidé. Et ce qu'on sait, c'est qu'on n'aimerait toujours pas être tchadien ou tchadienne, pas plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans.
Et on va se faire une petite pause musicale avec...
Maître Gazonga, qu'on peut parfois entendre aussi sur les bandes continues, mais là on le met exprès pour vous, en plein milieu du Canu Info.
Et c'est un morceau un peu long, mais vous nous retrouverez après 8 minutes d'écoute.
Mesdemoiselles, messieurs, et voici l'international Chalal et Maître Gazonga depuis Abidjan. Mes amis, est-ce qu'on peut y aller?
Bien sûr.
Ok, d'accord. Nous allons, bien sûr. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. C'est qui ignore mes discours, oh, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Jaloux saboteur aux yeux de crocodile. Veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Brazzaville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. Jaloux saboteurs aux yeux de crocodile. Veulent mon échec, souhaite ma misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Yaoundé, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent où, oh, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Mama.
les fesses commencent par trembler.
Et voilà, il y a d'autres émissions qui sont capables, quand elles viennent de vous parler du tchat, de vous sortir le morceau de hip-hop hyper bien qui a été écrit avant-hier et qui commente de manière ultra pointue, parfaitement efficace et avec laquelle on serait parfaitement d'accord les événements immédiats. Ben nous non, on vous ressort un hyper vieux morceau qui doit dater de avant même Hissène Habré, mais qui est le seul morceau, à ma connaissance, dans lequel j'entends parler de N'Djamena. C'était donc Maître Gazonga avec les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile.
Et qui est un peu un clin d'œil à notre ancien comparse des infos qui a lui distillé ce morceau dans les bandes continues. Et on va parler du coup du vaccin. Et alors,
des
et ben,
vaccins parce qu'il y en a des, une multitude.
Ouais, c'est ça. Des... Et c'est en lisant un article de Basta que j'ai eu l'idée de faire cette info. Et alors bon, alors si en France, hein, on a un peu l'impression que la vaccination traîne, que nous quand même avec nos pauvres vieux et plus de 55 ans, il n'y a qu'eux qui vont pouvoir être vaccinés, tout ça. Et bien sachez qu'on a quand même 11,6 millions de doses reçues. Alors là, je ne suis pas en train de faire la propagande du gouvernement. Attention, qu'on ne s'y trompe pas. Alors en gros, c'est 17% de la population. Et une fois qu'on met ce chiffre dans la balance mondiale, une autre réalité s'ouvre à nous. Hein, par exemple, en Iran, qui était pourtant l'un des premiers pays touchés après la Chine. Alors c'est vrai qu'on aurait pu s'imaginer que les pays de le vaccin arriverait un peu par les pays soit les plus touchés ou par si vous avez été le premier, vous allez être les premiers à avoir le vaccin. Non, pas du tout. En Iran, qui était pourtant l'un des premiers pays touchés après la Chine, a seulement pu vacciner 0,4% de sa population, comme en Irak. Pour les Philippines, c'est 1%, c'est 0,5% pour le Nigeria et au Mali, c'est moins de 0,1%. Alors, à l'échelle mondiale, si dans le monde plus de 700 millions de doses ont été administrées, 87% l'ont été dans les pays les plus riches et seulement 0,2% dans les pays les plus pauvres. Voilà, donc c'est des chiffres qui font un peu mal. Cette différence est due en grande partie à l'accaparement des doses pour les pays riches. Dès l'été dernier, États-Unis, Europe, Canada, Royaume-Uni passaient des précommandes, bloquant de fait l'accès aux vaccins aux pays les plus pauvres. S'ajoute à cela le fait qu'aucun pays n'ait eu le courage d'appuyer sur le bouton qui permettait de rendre, là, bon, par une idée folle, là où les formules publiques et ainsi rendre le développement du vaccin plus accessible.
Voilà, et au total, ça a été du coup 4,6 milliards de doses qui ont été achetées par les États les plus riches de la planète, alors que leur population totale, si on considère les mêmes pays, ne représente même pas 1 milliard de personnes, ce qui signifie qu'en moyenne, plus de 4 doses par habitant ont été achetées. Donc c'est une stratégie de mettre ses œufs dans tous les paniers pour pouvoir, s'il y a des vaccins qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas jusqu'au bout, qui n'ont pas, les effets escomptés, ben d'avoir misé sur tous les chevaux. C'est une stratégie que tout le monde ne peut pas se permettre.
C'est ça, c'est-à-dire que nous, les moments où on se dit « Ah bon, finalement, Pfizer honore pas toutes ses doses, peut-être qu'on peut réussir à gratter un peu une dose de fond de flacon, tout ça bah, », c'est-à-dire que quand même, faut quand même se rendre compte que tout ça, ce sont des problèmes de très, très, très riches. En termes de doses précommandées, aujourd'hui, les pays avec des plus hauts revenus ont déjà acquis 4,6 milliards de doses, contre 770 millions pour les pays à plus faible revenu. Le continent africain, par exemple, compte 1,3 milliard d'habitants. Parmi les pays dits intermédiaires, ceux qui s'en tirent le mieux malgré une épidémie très très forte chez eux, ce sont le Brésil et l'Inde. Cela s'explique notamment car ils possèdent leur propre industrie pharmaceutique à l'intérieur de leur pays. En Inde, par exemple, c'est 7% de la population qui a pu être vaccinée, même si actuellement, elle connaît une recrudescence, une flambée fulgurante de l'épidémie par un espèce de concours de variants, double variants, dont les spécificités nous échappent ici. Mais voilà. Alors oui, il existe bien un dispositif de...
Attends, tu veux dire qu'on ne serait pas épidémiologue?
Écoute...
Moi, je suis autant épidémiologue que Macron, hein. C'est-à-dire énormément.
Pas mal, ok. Eh bien, écoute, je te propose de nous faire une petite chronique Covid. Alors il existe bien un dispositif de solidarité mondiale, hein, son doux nom est COVAX, vous en avez peut-être entendu parler. Mais en plus d'avoir mis un sacré moment à se lancer, en gros, les pays riches ont commencé à le mettre en route quand ils étaient à peu près sûrs de pouvoir vacciner en priorité leur population, voire, comme je le disais, pouvoir vacciner 4 fois leur population. Alors même que les politiques se vantent sur les plateaux télé de faire preuve de grande solidarité mondiale en participant au dispositif COVAX, en disant « non, bien sûr, on n'est pas des salauds, on pense aussi aux autres », l'objectif même de COVAX est ridicule. C'est-à-dire que leur but, c'est de distribuer 2 milliards de doses. Alors, on le rappelle quand même, en précommande cet été, hein, on en était déjà à 4,6 milliards de doses pour les pays les plus riches. Donc, distribuer 2 milliards de doses, soit 20% de la population concernée par le dispositif COVAX. En gros, le but de COVAX, c'est de couvrir la vaccination des soignants et soignantes et personnels de santé dans ces pays-là. C'est-à-dire les gens qui sont le plus exposés à la maladie. Donc voilà, dans des pays où les systèmes d'hôpitaux sont globalement très défaillants. Alors, si les pays concernés souhaitent plus de vaccins, bien sûr, ils auront la possibilité de le faire, hein, quand même, parce que n'oublions pas, ils auront la possibilité de souscrire à des prêts auprès de la Banque mondiale. Et ça, quand même, c'est quand même la sacrée solidarité.
Puis ça leur permettra de s'endetter encore plus auprès des pays riches qui, justement, eux, font preuve de cette générosité sans faille qui est COVAX, comme tu en as parlé. Alors, sa nature un peu pot commun, cagnotte de soutien, c'est ridicule, comme tu l'as dit, face à l'ampleur des besoins. Et puis, pour l'instant, COVAX a du coup distribué quelques 38 millions de doses, selon l'ONU, dans les pays bénéficiaires du mécanisme. Alors, pourtant, même pour la part financée par les pays donateurs, la possibilité de livrer les vaccins dépend aussi des capacités de production, comme partout. Et la suspension des exportations de vaccins qui a été décidée récemment par l'Inde, qui est, comme tu le disais, de nouveau face à une nouvelle vague de virus, l'Inde a suspendu ses exportations le mois dernier, et ça concerne du coup aussi les doses qui étaient prévues par COVAX. Alors, tout ça en lieu et place d'une production planifiée de vaccins non brevetés. C'est une charité, finalement, de bout de chandelle qui s'organise et qui met en lumière alliances, animosités et autres enjeux politiques. Une générosité qui cache à peine les mesquineries, puisque pas plus tard qu'aujourd'hui, la France a indiqué qu'elle comptait donner en avril à des pays africains environ 100 000 doses de vaccins AstraZeneca, donc via COVAX. Alors, maintenant qu'il a plus la cote sur le marché des vaccins, c'est AstraZeneca qui est réservé aux plus âgés, que les vaccins adénovirus comme lui sont has-been et que le top c'est plutôt les ARN messagers comme le Pfizer, il devient plus en plus secondaire en France. Alors qu'à cela ne tienne, donnons-le aux pays pauvres, qu'ils récoltent donc les résidus du marché vaccinal que personne ne veut.
Et est-ce qu'on sait si par exemple ces 100 000 doses que la France va donner, ce sera en plus de sa participation COVAX ou ce sera déduit de sa participation au dispositif COVAX? On ne sait pas pour l'instant.
Ou déduit des impôts.
Ou déduit des impôts.
À la hauteur de 80%.
Bon, alors, du côté des initiatives militantes, il n'y a bien sûr pas que sur cette antenne que on se rend compte du déficit entre les pays riches et les pays pauvres. Un groupement d'ONG européennes, alors je ne vais pas les citer, mais parce qu'il y en a tout un tas, pour les Françaises on connaît à peu près leur nom, pour les autres un peu moins, mais voilà, ont lancé une initiative citoyenne européenne. Vous savez, c'est ces trucs où si ça récolte plein de signatures, peut-être qu'un jour ça en parlera au Parlement européen. Et en tout cas, leur propos est intéressant. Ils disent « Nous avons tous droit à la santé. En cas de pandémie, la recherche et la technologie doivent être partagées largement, rapidement, à travers le monde, ce qui semble logique. Aucune entreprise privée ne devrait pouvoir décider seule qui a accès au traitement et au vaccin et à quel prix. » Donc, en gros, ils disent un peu l'essentiel et ce qui paraît évident, mais bon, ça fait toujours du bien de le rappeler. L'année dernière, l'Afrique du Sud et l'Inde ont demandé à l'Organisation mondiale du commerce de renoncer aux brevets sur les vaccins contre le Covid-19, voyant un peu ce qui allait se passer, malgré le soutien du directeur général de l'OMS, c'est-à-dire pas le pecno de la première ONG altermondialiste. La proposition s'est heurtée à l'opposition du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de la Norvège et de l'Union européenne, dont la France. On rappelle qu'au début de la pandémie, Macron avait déclaré, je cite, que le vaccin contre le Covid-19 soit un bien commun mondial.
Alors, un petit exemple de cette dynamique à deux vitesses, on peut prendre l'exemple de Israël et la Palestine, où en Israël, plus de 80% des citoyens ou résidents israéliens de plus de 16 ans ont reçu déjà leurs deux doses de vaccin. Ça fait rêver. Voilà, on voit plein d'images où ils portent plus de masques en extérieur. Les mesures sont petit à petit levées. En Palestine, par contre, en ce moment, le taux d'infection explose. La population se voit de nouveau confinée. Même si ils ont, Ramallah donc, a reçu quelques 80 000 doses du système COVAX et quelques dizaines de milliers de doses du vaccin russe offertes par les Émirats Arabes Unis aux habitants de Gaza. Donc tout le monde met un peu ses petits pions géopolitiques là-dedans. Israël avait gracieusement envoyé 2000 doses à l'autorité palestinienne. Voilà. Donc comme il faut les diviser par deux pour que ce soit efficace, ça fait bien 1000 personnes vaccinées. Et elle a été accusée de manquer. Elle a quand même été accusée du coup de manquer à ses obligations en tant que puissance occupante au titre de la 4e convention de Genève qui la reconnaissait du coup comme puissance occupante. Alors les autorités répondaient que la santé relevait des compétences de Ramallah selon les accords de paix d'Oslo. Et après les habitants de Jérusalem-Est, les quartiers palestiniens occupés de la ville sainte, Israël a fini finalement par vacciner en mars les travailleurs palestiniens qui s'emploient dans les colonies et donc en Israël. Et ça constitue à peu près 100 000 personnes de cette vaccination de travailleurs palestiniens dans les colonies. Et les colonies, c'est quand même pas toute la Palestine non plus, même si c'est grandissant. Et donc c'est assez ridicule. En fait, ça lui permet surtout d'éviter que le regain d'épidémie qui a lieu en ce moment en Palestine ne circule trop vite sur son propre territoire et qu'ils soient de nouveau obligés, eux aussi, de reprendre des mesures.
Donc voilà, et on peut que vous conseiller de lire ou relire cet article de Bastama qu'on a largement pompé pour faire cette info. Voilà. Et ben il est 19h38 et le Canu Info tout touche à sa fin. Est-ce qu'on a un petit agenda? On se fait. Ah bon, écoutez, pour aller voir l'agenda.
Il y a une manif pour Moumé Abou Jamal samedi, quelque part, à une certaine heure.
On peut vous en dire plus sur où et à quelle heure, par exemple, ça serait pas mal.
Il y a un rassemblement pour les fiertés lesbiennes samedi à 15h, place de la Comédie.
Alors, pour Moumé Abou Jamal. Oui,
vas-y. Non, vas-y.
Pour Moumé Abou Jamal, c'est aussi à 15h, donc il va falloir vous dédoubler. Et...
Putain, c'est dommage qu'il y a à peu près deux rendez-vous par mois en ce moment.
Ah, et on voit pas où c'est.
Alors, Moumé Abou Jamal pour les jeunes.
Ah bah vas-y, dis-nous, parce qu'effectivement...
Les moins de 50 ans. Moumé Abou Jamal, c'est un gars qui a été Black Panther quand il était jeune. Et puis, il a été dans une sorte de groupe de hippies révolutionnaires qui s'appelait Move. Et qui ont été sacrément bousillés par le FBI. Enfin, je veux dire, ils occupaient un grand immeuble où ils vivaient en famille et puis... voilà, ils étaient un peu révolutionnaires, un peu allumés de différentes sortes de mystiques post-africaines. En tout cas, ils ont été attaqués par le FBI avec des hélicoptères qui ont balancé du napalm sur l'immeuble. Ils ont été tués, puis virés, emprisonnés pour certains. Lui, c'est pas à ce moment-là qu'il a vraiment eu des problèmes. À ce moment-là, il était à la radio, il était animateur de radio. Mais un peu plus tard, un jour qu'il sortait dans la rue de je sais même plus quelle ville, il est tombé sur un flic qui était en train de péter la gueule à son frère. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le flic était mort. Et d'une manière, c'est pas entièrement net, c'est pas entièrement sûr que c'est lui qui l'ait tué. En fait, même entre-temps, suite à des années et des années de procès, de révisions et d'appels, il semble à peu près certain que c'est pas lui qui l'a tué, mais à peu près certain pour nous, c'est-à-dire que pour n'importe quel juré américain, il y a un noir d'un côté et un flic de l'autre. Donc c'est forcément le noir qui a tué le flic. Et il a été condamné à mort, recondamné à mort, recondamné à mort, avec tous les procès et tous les appels qu'il y a eu. Il est en prison depuis maintenant...
40 ans.
40 ans, dites donc. Il commence à être sacrément vieux. Il est dans un état de santé complètement déplorable. Il a été opéré du cœur, je crois, la semaine dernière ou quelque chose comme ça. Mais il est dans le couloir de la mort. Hein, sur les 40 ans, il a dû en passer 39 dans le couloir de la mort.
Et 30, nous dit Rebellion. 30.
Ah ben, Rebellion qui a plus regardé ses sources que moi, qui suis en train d'improviser. Mais c'est ça, depuis tout ce temps, ce gars qui est au départ est quand même un camarade politique, est condamné à mort pour un crime qu'il a vraisemblablement pas commis. Et puis, si, quand bien même il l'aurait commis, on pourrait dire qu'il était plus ou moins dans une sorte d'état de légitime défense. Voilà, c'est important de le soutenir encore. Et donc, c'est samedi.
À 15h, place Louis Pradel.
Et voilà.
Et on peut finir sur un petit conseil de lecture que vous pouvez trouver sur le site rebellion.info. L'article s'appelle « Un jour sans fin, troisième audience du procès en appel de Kamel Daoudi ». Et on en a plusieurs fois parlé sur cette antenne. On se souvient, Kamel Daoudi, c'est la personne qui est tristement célèbre pour être le plus vieil assigné à résidence de France et qui totalise à peu près tout ce qu'on peut voir dans l'absurde des tribunaux et de la justice en France. Voilà, et ben on vous conseille en tout cas la lecture de cet article. Et ben on va finir les infos un petit peu en avance. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés.
Et bonne soirée.
Allez, ciao.
Ah, on va mettre le générique de fin, si je le retrouve.
On va faire des bruits de papier qui se plient pendant ce temps.
Pendant que
voilà. Allez, merci de nous avoir écoutés.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org. Rebelle des radios.
Je me suis réveillé avec une impression étrange, comme si j'étais dans la quatrième dimension, comme si autour de moi rien n'avait changé, et pourtant tout semblait différent. Dans le couloir j'entends une voix.